Dans le cours de l'histoire sur France Culture, 4 octobre 1945, la sécurité sociale voit le jour. Heureux. Mais pour le moment, il est précisément 10h sur France Culture et c'est avec Philosophie que nous retrouvons Géraldine Mühlmann. Bonjour Géraldine.
Bonjour Xavier Mauduit, ça va?
Oh, ça va bien, vous allez peut-être pouvoir m'aider parce que je me demandais qui a dit qu'en démocratie le lieu de pouvoir est vide?
Eh bien, le lieu du pouvoir est physiquement existant mais vide symboliquement. C'est la thèse de Claude Lefort. Elle est subtile. On va l'expliquer ce matin, dans notre série sur Claude Lefort cette semaine.
Une heure de philosophie et de subtilité. Bonne émission, Géraldine.
Merci, Xavier.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Claude Lefort et le XXe siècle, c'est notre série cette semaine. Ce matin, que voulait dire Lefort quand il affirmait que le lieu du pouvoir en démocratie est vide ? Claude Lefort l'a souvent dit, la démocratie moderne est un régime inédit. La démocratie a certes existé dans l'Athènes antique, mais dans des conditions qui ne pourraient plus être acceptées aujourd'hui, excluant beaucoup de monde de la citoyenneté, esclaves et femmes notamment. Sous sa forme moderne, la démocratie est une véritable invention et nous n'avons pas fini de la déployer ni de la penser. Des anciens régimes monarchiques et oligarchiques modernes, la démocratie a gardé une chose. La séparation entre la société et l'État. Mais en démocratie, le pouvoir étatique face à la société a une très singulière caractéristique. Il a beau être empiriquement, physiquement, le lieu du pouvoir, c'est un lieu qui renvoie à une légitimité disséminée dans toute la société dont il provient. Au sens de la symbolique politique, donc, ce lieu est vide. C'est une curieuse idée, celle du lieu vide du pouvoir, et on a vite fait de commettre à son sujet des contresens. Nous allons donc prendre le temps, dans cette émission, de décortiquer son sens et ses implications selon Lefort. C'est essentiel pour comprendre aussi ce que ce philosophe dit des droits individuels, ces fameux droits de l'homme, souvent critiqués pour leur abstraction et leur logique individualisante. Lefort y voyait plutôt la source d'une dynamique très concrète, féconde, quoique non déterminée à l'avance. Bonjour Justine Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes professeure de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez publié avec Jean-Yves Pranchère en 2016 un ouvrage intitulé « Le procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique » publié aux éditions du Seuil. Vous avez aussi coordonné en janvier 2019 un numéro de la revue Esprit intitulé « Claude Lefort, l'inquiétude démocratique ». Et bonjour Martin Legros.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Vous connaissez très bien la pensée de Lefort, qui vous est cher et depuis longtemps. Vous avez notamment publié dans un collectif consacré à Lefort aux presses universitaires de Caen un article intitulé « Le lieu vide et la fin du pouvoir, métamorphose de la puissance en notre temps ». Et par ailleurs, vous co-organisez avec Gilles Bataillon, qui est l'exécuteur testamentaire de Lefort, une journée d'études pour son 100e anniversaire, de sa naissance en tout cas. Ça a lieu donc sur Lefort, à la Maison de l'Amérique latine, le 28 novembre prochain. Les auditeurs peuvent trouver cela sur Internet et s'y inscrire. Pour comprendre ce que veut dire Lefort lorsqu'il affirme que le lieu du pouvoir en démocratie est un lieu vide, voici tout de suite un court passage de 1980. Lefort lance cette expression au moment où il aborde le problème de la légitimité du pouvoir en démocratie.
La légitimité du pouvoir se fonde sur le peuple. Mais à l'image de la souveraineté populaire, se joint celle d'un lieu vide, impossible à occuper, tel que ceux qui exercent l'autorité publique ne sauraient prétendre se l'approprier. La démocratie allie ces deux principes apparemment contradictoires. L'un, que le pouvoir émane du peuple, l'autre, qu'il n'est le pouvoir de personne.
Il est le pouvoir du peuple, il n'est le pouvoir de personne. Je vous écoute, Martin Legros, pour expliquer ces formules à la fois très belles et puis, plus on y réfléchit, plus parfois se brouille la compréhension précise de leur sens.
Oui, on a le sentiment qu'avec cette formule du lieu vide, Lefort touche à quelque chose à la fois de fondamental et en même temps, pour tout dire, d'un peu énigmatique. Un lieu vide, qu'est-ce que c'est un lieu vide? C'est un lieu dont on a enlevé tous les objets, tous les occupants. Est-ce que c'est un lieu inoccupable? Et puis c'est un peu bizarre de définir, de dire aux gouvernants qu'ils doivent gouverner mais ne jamais occuper le lieu depuis lequel ils gouvernent. Étrange blanche comme tâche. En réalité, si on fait un petit détour peut-être pour essayer de comprendre cette formule, je crois qu'elle est nourrie de deux sources. Une première source qui vient, Lefort a été un disciple de Maurice Merleau-Ponty, phénoménologue, et une l'originalité de sa pensée, c'est qu'il pense le politique en termes de visibilité. Là où, je dirais, la démocratie, Platon, Aristote, même Kant, Demos Kratos, le pouvoir du peuple, eh bien, il réfléchissait au, je dirais, dispositif juridico-institutionnel par lequel on formalise cette souveraineté du peuple. Lefort dit, oui, c'est intéressant, ces dispositifs, délégation, contrat constitutionnel, élection. Simplement, il y a quelque chose de plus ample et du vaste dans la politique qui fait que ça concerne tout le monde. C'est que le pouvoir, avant d'être un organe fonctionnel de décision, d'organisation collective, il est un espace de réflexivité, une sorte de miroir, depuis lequel la société, en un sens, se regarde elle-même et se regarde comme si elle se regardait du dehors d'elle-même et parvient à se déchiffrer dans ses articulations et en même temps à être mise en contact avec les principes qui la fondent. Donc cette dimension de réflexivité, elle est présente pour Lefort dans toutes les formes de société, dans tous les types de pouvoir. Le pouvoir a cette fonction symbolique. Mais il y a une singularité dans la démocratie, unique peut-être, qui fait que la démocratie, elle présente un miroir, mais un miroir dont les occupants, la scène politique, ne peuvent pas se dire « je suis le pouvoir ». Je suis, ça c'est le despote qui dirait « c'est moi le pouvoir, j'ai été élu, la souveraineté du peuple est avec moi, je suis le peuple, et donc ce que je décide est bien ». Eh bien la démocratie, elle dit non, tous ceux qui sont qui occupent le pouvoir, ce sont des simples occupants. Elle leur dit, vous allez être là pendant quelques années, vous devez remettre en jeu votre pouvoir, vous devez faire une place à l'opposition, vous devez voir votre pouvoir contesté par quand il est législatif, par l'exécutif et le judiciaire. Donc il y a une organisation de la division des pouvoirs pour manifester quoi ? Pour manifester en réalité un phénomène qui est fondamental, qui est que tous les pouvoirs, les vrais pouvoirs, le fondement du pouvoir, il échappe aux hommes. Et la démocratie, elle nous confronte à travers cette idée de l'inoccupabilité du pouvoir à la question fondamentale de l'autorité, c'est que ceux qui occupent l'autorité ne peuvent pas se l'approprier à moins de basculer dans le despotisme.
Qu'en pensez-vous, Justine Lacroix ? Ne faudrait-il pas préciser que cette réflexion de Lefort est adossée à l'idée qu'on ne peut pas, dans une démocratie soucieuse de la pluralité, faire le contour de la société, dire quelle est sa substance identitaire, une. Et n'est-ce pas pour cela que ce pouvoir qui représente la société en démocratie ne peut pas constituer un pôle ? D'une certaine façon, il n'a pas une unité substantielle lié à une unité substantielle de la société, car celle-ci n'existe pas pour Lefort.
Alors, oui, alors vous avez tout à fait raison, c'est que là, en fait, quand Lefort réfléchit la nouveauté radicale pour lui de la démocratie moderne, hein, notamment dans son ouvrage « L'invention démocratique », il mène en même temps une réflexion sur le totalitarisme. Et donc, effectivement, le totalitarisme, pour lui, c'est, au fond, la tentative de réaliser, donc de porter dans le réel, de réaliser le fantasme d'une société qui obéirait à la logique de l'identification, d'une société complètement réconciliée avec elle-même, c'est-à-dire où, finalement, il n'y a plus de distinction entre l'État et la société s'identifie à l'État s'identifie à la société, l'État s'identifie au parti, où il y a une logique d'identification qui est mise en œuvre à tous les niveaux. Donc il y a cette opposition par rapport à ce fantasme qui est en réalité irréalisable et qui ne peut que conduire au totalitarisme d'une société qui nierait toute forme de division interne. Mais je dirais que Lefort, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Martin Legros, et j'ajouterais aussi que Lefort, quand il réfléchit la radicalité, la nouveauté radicale de la démocratie moderne, il réfléchit aussi par rapport à un modèle qui n'est pas totalitaire, mais qui est le modèle de l'ancien régime.
Voilà, c'est même peut-être premièrement par rapport au régime monarchique ou autoritaire qu'il définit la spécificité démocratique, et pas seulement par rapport à la société totalitaire.
Bien sûr, en fait, le point de départ, c'est donc ce modèle qui n'est pas despotique au sens... c'est ce modèle où le monarque incarne dans sa personne l'unité du royaume, et en même temps fait signe, puisqu'il est monarque de droit divin, vers un pôle transcendant du pouvoir situé en dehors de la société et qui est Dieu. Et donc, ce que nous dit Lefort, c'est que la révolution démocratique, si vous voulez, fait en quelque sorte disparaître ce modèle du corps. Parce que la souveraineté populaire ne se substitue pas simplement à la souveraineté de droit divin. Quand il dit que le lieu du pouvoir est vide, et ça je crois que c'est vraiment important de le marteler pour éviter toutes sortes de formes de contresens, ça ne signifie pas que le lieu du pouvoir est réellement vide, qu'il n'y a pas d'institution de Premier ministre, de président de la République, si vous voulez, ou d'Assemblée, pas du tout. C'est de dire que, effectivement, ceux qui occupent le pouvoir ne l'occupent que de façon temporaire et ne peuvent pas prétendre incarner dans leur personne cette unité de la société. Ils ne peuvent pas prétendre dire, comme le disait Martin Le Gros il y a un instant, dès le moment où un dirigeant dit « le peuple, c'est moi », on sort déjà de la logique démocratique. Et donc, et plus fondamentalement, il y a cette idée que le fondement ultime de la démocratie, le critère de légitimité ultime, il nous échappe quelque part, oui. Toujours. Ce qui ne conduit pas, et ça aussi c'est important pour éviter un contresens, à une sorte de relativisme où tout se voudrait. Justement, toute l'exigence, toute la difficulté du régime démocratique, c'est qu'à la fois il doit poser des critères, adopter des lois justes, et en même temps savoir que ces lois sont révisables, et savoir qu'il n'a pas le monopole d'une vérité absolue.
Il me semble, je ne sais pas quel est votre avis, mais que la distinction que fait Lefort entre la politique et le politique aide à comprendre notre affaire. Du point de vue de la politique, c'est-à-dire des institutions et de la vie politique, au sens, je dirais, prosaïque, tel qu'on l'utilise dans le langage ordinaire, il y a bien sûr un lieu du pouvoir qui n'est absolument pas vide, enfin l'État existe tangiblement. Mais du point de vue du politique, qui pour Lefort renvoie au symbolique, à la conception du pouvoir qui se forge dans une société démocratique, il n'y a pas de pôle, dit-il, il le dit dans un autre texte de 1980, il n'y a pas de pôle cristallise tout le symbolique. Le symbolique autour du politique, il est disséminé, il n'y a pas de polarisation, et donc le lieu du pouvoir, est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Martin Le Gros, il est dépendant fondamentalement de ce qui se passe dans les représentations de la société concernant ce qu'est le pouvoir. Il est dépendant d'une symbolique qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne polarise pas.
Oui, alors à nouveau, sur l'usage du concept de symbolique, c'est intéressant, mais dans l'œuvre de Lefort, si on regarde un petit peu, il y a un usage, je dirais, il y a deux usages ou deux acceptions du terme de symbolique. Il y a une première acceptation qui est l'acception commune. Un symbole, c'est ce qui tient lieu d'autre chose. Mm-hmm. Et un drapeau, comme un gouvernant, il tient lieu de... Le drapeau français représente la France de la même manière que son président de la République représente la nation et le peuple français. Il tient lieu. En politique, les symboles sont importants, ils ont une efficacité, c'est-à-dire que c'est non seulement des symboles figuratifs, mais c'est des symboles effectifs. Un vaut pour tous. Le pouvoir a un rapport symbolique, c'est-à-dire il tient lieu de la collectivité, l'Assemblée nationale, quand elle vote une loi, c'est une loi qui vaut pour tous. Il y a déjà là, donc, c'est une acception commune. Le symbolique, c'est ce qui représente, c'est ce qui tient lieu d'autre chose.
Oui.
Mais il y a une deuxième acception du symbolique chez Lefort, qui est peut-être la plus profonde, et qui fait que tout, je crois, qui est inspiré à la fois, je dirais, de l'anthropologie, il a beaucoup écrit sur Marcel Mauss, mais aussi sur Lévi-Strauss, mais il a aussi été inspiré beaucoup par la psychanalyse. Et on voit que là, le symbolique touche, je dirais, aux investissements un petit peu inconscients que suscite la question de l'autorité et du pouvoir. Après tout, nous avons été enfants avant d'être adultes, nous avons été rencontrer l'autorité dans la figure de nos parents, et donc il n'est pas interdit de penser que l'idée qu'on se fait de l'autorité, du pouvoir, elle mobilise des désirs, des affects qui remontent à l'inconscient et pas uniquement au contrat, au juridique, à l'institutionnel. Et donc dans cette deuxième acceptation du symbolique, je crois que ce que Lefort veut dire, c'est que nous sommes dans un rapport au pouvoir. Pourquoi, c'est quand même très étrange quand on y pense, pourquoi est-ce que la moindre déclaration de Emmanuel Macron, de Mélenchon, de Marine Le Pen, de Trump suscite, on ne débat pas comme cela, des déclarations, je ne sais pas moi...
De Martin Legros et de Justine Lacroix, et moi-même.
Malheureusement, peut-être, qui sait. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique, pourquoi est-elle, nous projetons-nous là-dedans? Parce que le politique renvoie au collectif une image de lui-même. Et je le disais, il a une fonction de miroir, et il nous regarde, et nous nous regardons du point de vue que Emmanuel Macron ou que les gouvernements nous renvoient. Et donc nous intériorisons les articulations de la société à travers ce mouvement qui nous permet de nous regarder du point de vue du dehors. Donc il y a un double mouvement à la fois d'extériorisation de la société et de l'intériorisation, et c'est cela qui fait le symbolique, la fonction symbolique de la politique.
Et en démocratie,
ce qui est intéressant, et dans la formule que vous avez citée...
C'est qu'on n'est pas d'accord avec les paroles.
Exactement.
Il y a une espèce de désaccord constant, de vie par-delà les paroles prononcées
et
du pouvoir.
Et au travers la manifestation de cette pluralité de voix, de ce discours permanent, de cette division permanente, les individus se renvoient cet étrange spectacle les uns aux autres, qu'en réalité, ça leur échappe. C'est-à-dire, personne ne peut mettre la main sur la volonté collective, la volonté générale, c'est ça.
Et on peut en discuter à l'infini des paroles du pouvoir.
Mais je dirais, c'est plus... Habermas, il dit, la démocratie, c'est la discussion permanente. Chez Lefort, c'est quelque chose de beaucoup plus... de plus profond, au sens où ce débat collectif sur toutes les décisions collectives, il génère au sein de chacun une réflexion sur « mais c'est quoi ?» qui est juste, mais c'est quoi qui est droit, mais c'est quoi, et donc et personne ne possède, dans la mesure même où le droit, la loi, personne sur la scène du pouvoir dit moi je suis le droit, moi je suis le pouvoir.
Oui.
Chacun est à la fois amené à formuler sa conception de la justice et à se dire que cette formulation là ne l'épuisera pas. Et dans la citation que vous avez citée, c'est important d'insister là-dessus. À la fin, il dit oui, la démocratie c'est la souveraineté populaire et c'est le principe que le pouvoir n'appartient à personne. La démocratie, conclut-il, vit de cette contradiction, une contradiction, c'est contradictoire. On veut à la fois que le peuple s'exprime, décide collectivement pour la première fois peut-être, et en même temps, on lui interdit de se coaguler dans une volonté une. C'est une contradiction, mais c'est une contradiction qui met chacun à l'épreuve de la nécessité de penser, de parler, d'éprouver ses propres contradictions.
Le pouvoir, écrit Lefort par ailleurs, dans un texte de 81, ne se défait pas du travail de la division dans lequel s'institue la société. Donc oui, les paroles prononcées par les gens qui nous dirigent en démocratie sont d'emblée objet d'une réappropriation conflictuelle. C'est tout à fait normal et c'est contradictoire évidemment avec la fonction même du pouvoir qui normalement est de parler pour tous. Il y a une tension permanente, Justine Lacroix, autour de tout ce que le pouvoir fait pour apparaître comme le pôle qui dit la vérité de cette société. Il ne peut jamais la dire, elle n'existe pas.
Et en tout cas, il ne peut pas prétendre dire effectivement la vérité de la société. Et effectivement, dans le texte qui a été lu, on voit bien que Lefort est éminemment conscient de la très grande, je disais, exigence, mais aussi de la fragilité du régime démocratique. Oui. Parce que quand il dit « la démocratie vit de cette contradiction », donc c'est la fin du passage, pour peu que celle-ci risque de trancher ou le soit, la voilà prête de se défaire ou déjà détruite. Et en fait, dans la suite du texte, il dit, au fond, si le pouvoir ne parvient pas à organiser cette mise en forme, cette mise en scène symbolique de l'unité de la société.
Oui.
Symbolique, ça veut dire qu'il y a une distance.
Oui.
Donc ça veut dire que Martin Le Gros citait tout à l'heure l'exemple du drapeau, on pourrait citer même l'exemple de l'Assemblée nationale, c'est une mise en scène symbolique. Et le propre du symbolique, c'est, vous savez, qu'il y a une distance entre la réalité et la représentation, si vous voulez. Et donc, il nous dit, si ce pouvoir déchoit et n'apparaît comme n'étant que la possession d'intérêts privés, par exemple, si on a l'impression qu'au sommet de l'État, les gens ne parviennent plus, les personnes qui occupent le pouvoir ne sont là que pour servir leurs intérêts privés, ne parviennent pas à mettre en scène symboliquement l'unité de la société, le pouvoir est corrompu et menace de se déchoir. Et il dit, mais il y a un autre danger, c'est au contraire, quand on oublie que cette mise en scène, elle n'est que symbolique, et qu'on tente qu'on croit, par exemple, que la nation est une réalité substantielle, que l'unité du peuple est réellement réalisée, et qu'on tente de faire, au fond, coïncider avec la réalité cette volonté d'unité. Il dit, en fait, c'est quand le passage s'opère de la volonté d'être tous unis, ce qui est tout à fait légitime, nous avons parfois besoin de nous sentir unis, avec cette idée que nous sommes tous les mêmes, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que la démocratie navigue pour lui entre ces deux pôles, et ça en fait des régimes, pour cette raison, sans doute les plus difficiles et les plus exigeants.
Et Le Fort s'intéresse beaucoup à la nostalgie. D'ailleurs, chez beaucoup de philosophes, il en parle souvent, d'avoir enfin un pôle du pouvoir plus fort, plus plein, puisque en démocratie, ce lieu-là est vide symboliquement. Et c'est une chose qui, évidemment, était un désir qui était mieux satisfait, ne parlons même pas du totalitarisme, qui est encore autre chose, mais par les anciens pouvoirs autoritaires ou les pouvoirs monarchiques, où il y avait, par exemple, une famille avec un sang particulier qui incarnait vraiment quelque chose de la société. Souvent, d'ailleurs, elle faisait des alliances avec quelque chose comme du divin, et l'autorité dont vous parliez tout à l'heure, Martin Le Gros, à ce moment-là, était plus pleine. Il y a une nostalgie naturelle, et notamment chez les philosophes qui aiment bien les substances, des pouvoirs anciens non démocratiques.
Oui, dans le texte, l'extrait que vous avez cité, le dit bien. En fait, la démocratie, elle est à la fois, disait Le Fort, elle est à la fois problématique parce qu'elle, justement, de cette dimension, le fait que le lieu est vide, on ne peut pas figurer ce qui nous unit. À la différence des monarchies d'Ancien Régime où, ben, tout simplement, regardez, je sais pas, la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre aujourd'hui, ben là, on sait qu'il y a, on dit de l'Europe, qui j'appelle, les Américains disent, c'est quel est le numéro de l'Europe, il n'y en a pas, et c'est un problème. Donc, on a besoin de figurer l'unité. Et la démocratie, elle rend un peu infigurable l'unité. Mais en même temps, et donc elle pose un problème de nostalgie par rapport à avant, c'était beaucoup mieux parce qu'au moins on savait qui était l'instituteur, qui était le père, qui était, etc. Simplement, en même temps qu'elle le rend infigurable, elle ouvre en même temps, et c'est ça qui la rend précieuse aux yeux de Le Fort, elle ouvre au fait que l'autorité n'appartient en réalité jamais à personne. Même le monarque de droit absolu, il s'autorisait de plus haut que de lui-même, de Dieu, d'une tradition, d'une histoire, de toute une série de droits incorporés dans le royaume dont il était le garant par rapport aux pouvoirs, aux autorités
en place. Et ce pouvoir était plus plein que le lieu vide de la démocratie.
Il était certainement beaucoup plus plein. Mais ce qui est aussi cette nostalgie, c'est pas uniquement les occupants du pouvoir qui figuraient, qui incarnaient l'unité. Chez Le Fort, ce qui est intéressant, c'est que l'espace politique, il n'est qu'un miroir, et c'est là-dessus que sont branchées les relations entre les individus. Oui. Et quand, on le voit aujourd'hui quand même de manière assez phénoménale, quand des candidats au despotisme ou à un pouvoir beaucoup plus autoritaire, suivez mon regard de l'autre côté de l'Atlantique, entendent justement mettre la main sur le pouvoir, remettre en question des choses qui nous semblaient une évidence absolue, comme l'alternance, comme l'existence d'une majorité, la reconnaissance du suffrage. Eh bien, quand ils remettent ça, ils ne font pas seulement dérégler le système démocratique. Qu'est-ce qui se passe ? Ils proposent à la société de faire En faisant corps avec le pouvoir, il propose à la société de faire corps avec elle-même. Et donc, le pouvoir, il est branché sur la société et l'appel à un pouvoir plus autoritaire, il se répercute automatiquement dans les relations sociales. Et demain, vous allez voir aux États-Unis que non seulement il va y avoir l'idée qu'il y a des migrants, des immigrés qui sont des dangers, qu'il faut expulser pour que le corps social, pour que la nation américaine fasse de nouveau unité, mais au sein de cette unité, il va y avoir des tentatives pour restaurer une certaine idée de l'ordre patriarcal, de l'ordre familial, du rapport entre les hommes et les femmes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le pouvoir, cette nostalgie d'un pouvoir qui ferait corps avec l'autorité, elle n'a pas seulement un enjeu politique, elle a un enjeu qui résonne dans toute la société.
Oui, alors là, on touche à un point aussi qui est quand même important à préciser. Les nostalgies des pouvoirs plus pleins, où le lieu du pouvoir est plus plein, ça apparaît plutôt comme des nostalgies des pouvoirs d'ancien régime, où il y avait une dynastie, un rapport à Dieu, des choses substantielles qui venaient nourrir le lieu du pouvoir. Mais une des choses que dit aussi Lefort, c'est qu'une fois qu'on est en démocratie, que le lieu s'est vidé, lorsqu'on a cette nostalgie, le risque, c'est de recréer un lieu vide qui va se remplir, non pas avec Dieu, non pas avec du sang supposé divin, d'une dynastie, mais qui va se remplir par la société elle-même. Et c'est ça le totalitarisme. Pour lui, le totalitarisme, Justine Lacroix, c'est un pouvoir qui va manger la société, se mettre en elle, siphonner toutes ses énergies, et à ce moment-là, se nourrir non pas de références transcendantes extérieures, mais se nourrir du social lui-même, qu'il contrôle parfaitement.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a là-dessus Claude Lefort, d'ailleurs comme Hannah Arendt, hein, dont il s'est nourri, maintient que le totalitarisme, c'est un nouveau mode politique qui n'a rien à voir avec la monarchie de droit divin, qui effectivement faisait, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, appel à une source du pouvoir située en dehors du roi, puisqu'il y avait l'image d'une source transcendante. Mais je voudrais juste revenir, quand vous parlez au fond de cette nostalgie ou ce désir de plénitude, qui insistait, c'est qu'il y a quand même deux sources très importantes pour Lefort. Martin Legros a mentionné la psychanalyse tout à l'heure, c'est très important, puisqu'il a suivi les séminaires de Jacques Lacan. Et il y a cette idée dont il a retenu que qu'est-ce que c'est qu'un sujet qui réussit à s'instituer sur un mode sain, si je puis utiliser ce terme, c'est celui qui accepte qu'il est traversé par un clivage et qui ne peut pas maîtriser, qui ne prend pas ses désirs, si vous voulez, ou son fantasme de fusion pour la réalité. Donc ça, c'est un point important parce que Lefort transpose ça aussi largement à la question de la démocratie. Un autre auteur qu'il a beaucoup travaillé, c'est le texte sur la servitude volontaire de la Boétie. C'est-à-dire, quand il lit ce texte, il revient à cette interrogation de la Boétie, dire, en fond, pourquoi est-ce qu'on accepte d'obéir au tyran alors que nous sommes tellement plus nombreux que le tyran? S'il dit au fond, c'est parce que nous sommes animés par ces deux désirs contradictoires, un désir de liberté, mais aussi un désir de servitude qui se marque au fond par une volonté d'identification à la personne du tyran.
Oui.
Et il va beaucoup méditer ce texte. Et ce qui s'opère effectivement, ce à quoi répond pourrait répondre le totalitarisme, si vous voulez, et c'est en cela qu'il y a un risque totalitaire qui est induit dans la démocratie, même si c'est le renversement de la démocratie.
Ça,
le totalitarisme, c'est très important,
ça,
c'est très important, mais
le fort.
Mais parce que la figure du peuple, si vous voulez, ne va plus être investi sur un mode symbolique, sachant que nous savons que le peuple est inappropriable, ça n'empêche pas de s'en réclamer, mais en maintenant cette distance, le peuple va être investi comme une sorte d'entité substantielle que le pouvoir incarnerait et il y aurait une sorte de fusion, effectivement.
D'incorporation, comme
et d'incorporation, de réincorporation du pouvoir.
Le pouvoir totalitaire incorpore la société,
incorpore
met un chef partout dans la société, met à à mal la séparation État-société civile qui existait encore dans les anciens pouvoirs.
Mais bien sûr, oui. Donc il met à mal cette distinction entre État et société civile, ce qui est une nouveauté même par rapport à la société d'ancien régime. Ouais. Et donc il y a une double négation de la division, en fait, dans le totalitarisme. On nie la division État-société, ouais. L État s'identifie.
Ça, c'est inédit.
Voilà. Et également, négation des divisions internes à cette société elle-même par l'abolition de tous les corps intermédiaires et de toutes les associations qui n'obéissent pas à la logique du parti.
Donc, refuser la démocratie avec sa difficulté, hein, que nous avons évoquée, son incertitude, ça peut être, en tout cas intellectuellement, le retour à quelque chose comme l'Ancien Régime, et le Fort dit, malheureusement, pour plein de gens, c'est un peu fini. Ça peut être la dérive totalitaire, qui est encore autre chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, les risques de sortir de l'incertitude démocratique et du lieu vide du pouvoir que nous venons de définir, nous sommes en train d'inventer de nouvelles voies. Peut-être qu'il faut arrêter de comparer ce qui se passe, et vous avez évoqué Trump, avec les anciens rois, ça c'est sûr, avec le totalitarisme, c'est un peu rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que voilà, il faut pas oublier ce que ça a été, le totalitarisme. C'est encore autre chose qui est en train de se passer, vous, d'après vous, Martin Legros ?
Oui, et d'ailleurs la formule que vous avez citée, je la trouve, c'est toujours le fort, il faut lire et relire pour comprendre. Vous savez, à la fin, il dit donc la démocratie, lieu vide, mais souveraineté populaire, elle vide cette contradiction. Pour peu que cette contradiction risque d'être tranchée ou le soit, la voilà donc la démocratie près de se défaire ou déjà détruite. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes à un âge où la contradiction entre l'expression de la souveraineté populaire et le lieu vide risque d'être tranchée. Mais qu'il n'y a plus de modèle totalitaire, il n'y a plus ce modèle qui a opéré dans la pensée de Lefort et d'Arendt, comme il y avait la démocratie et le totalitarisme, même s'il disait que la démocratie est habitée par le fantasme totalitaire, par des aspirations totalitaires, etc. Oui. C'était quand même deux modèles de société opposés et conflictuels. Il me semble que nous vivons en effet dans un temps où les choses sont plus embrouillées. Et d'ailleurs, dans le dernier livre qu'il a publié, Lefort, dans La Complication, il portait bien ce titre, La Complication. Il disait que les choses se compliquent un petit peu, oui, dans le temps dans lequel on vit. Et il montrait d'ailleurs que le totalitarisme lui-même, chez Lénine déjà, dans le léninisme, était fait, disait-il, de l'assemblage de schèmes de politiques variées et diverses. Le schème du capitalisme, le schème du despotisme asiatique, le schème d'une certaine démocratie moderne, d'une expression de la souveraineté populaire, et que, en quelque sorte, l'alchimie de ces schèmes avait produit un nouveau modèle totalitaire. Peut-être qu'aujourd'hui, il concluait en disant « Nous avons donc fait des progrès dans l'imprévisible ». Eh bien, nous sommes aujourd'hui peut-être en effet confrontés à des manières de trancher la contradiction démocratique qui ne dispose plus. Je suis pas sûr que Trump ou les gouvernants autoritaires aujourd'hui, populistes et autoritaires d'Europe et d'ailleurs, ont un modèle précis de la société qu'ils veulent réaliser. Cependant, ils sont habités par toute une série d'aspirations où des choses sont en train de se mêler. Et il me semble que être attentif au fait que aujourd'hui, de plus en plus, le fait que le pouvoir soit vide, cette inoccupabilité, elle fait problème. On veut mettre le peuple, la volonté populaire ou supposée populaire, à la place, par exemple, faire primer sur l'état de droit. On veut que le dirigeant soit habité par une sorte de mandat clair et direct, corporel, avec la majorité. Et donc, il y a toute une série de schèmes qui, en effet, sont en train de se mêler. En tout cas, il me semble que l'idée que la contradiction entre la souveraineté populaire et la démocratie, oui, est de plus en plus aujourd'hui vécue douloureusement, et qu'il y a des tentatives, sinon de la défaire, de la trancher.
Alors, ça veut dire, si je vous suis bien, qu'au fond, il faut aux théoriciens du politique, aux philosophes, inventer de nouveaux concepts. Il y a la démocratie, il y a eu les pouvoirs d'ancien régime par rapport auxquels la démocratie s'est construite. Il y a eu le risque totalitaire qui a été plus qu'un risque, qui a été actualisé parfaitement, c'est épouvantable, de le dire comme ça, une actualisation parfaite, au XXe siècle. Et là, nous assistons à autre chose. Ce sont des pouvoirs parfois qualifiés de populistes. Moi, je trouve que ce mot est ajoute de la confusion à la confusion. Il nous faut inventer de nouvelles choses, Justine Lacroix, de nouveaux concepts pour penser le désir dans la démocratie de rendre la démocratie plus simple, parce que cette histoire de lieu vide, ça crée des frustrations, etc. Et c'est ça qui se passe en ce moment.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut, il faut sans doute inventer de nouveaux concepts. Il faut surtout aussi garder à l'esprit l'épaisseur historique des concepts que nous utilisons. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, vous avez dit que le terme de populisme vous mettait mal à l'aise, moi aussi, en raison des origines historiques du populisme, notamment à la fin du 19e siècle aux États-Unis, où ça visait avant tout un mouvement de démocratisation de la société. Et moi, ce qui me gêne, c'est que ce terme de populisme renvoie à des courants tellement différent entre des courants de gauche radicale qui visent peut-être avec des excès une démocratisation de la société, mais aussi des régimes classiquement autoritaires, conservateurs du style de celui d'Orban. Puis le phénomène Trump, qui est quand même un phénomène tout à fait particulier. Moi, je n'ai pas les compétences pour trancher, mais enfin, je constate quand même qu'il y a un certain nombre d'historiens reconnus du fascisme qui avaient beaucoup hésité et qui aujourd'hui trouvent qu'il y a quand même pas mal d'analogies avec les... En tout cas, il faut se souvenir de ce qu'étaient les débuts du fascisme. C'est vrai que quand on pense totalitarisme aujourd'hui, on a l'idée du régime nazi constitué, si vous voulez. On se voit, à Berlin 1938 ou stalinien. Il faut se souvenir aussi de ce qu'ont été les débuts des théoriciens du fascisme. Et là, ce qu'il nous manque aujourd'hui, clairement, dans le cas des États-Unis, par exemple, pour prendre cet exemple-là, c'est la terreur, c'est la mobilisation de masse, l'embrigadement de la société. Et j'ai envie de dire, alors je le dis avec beaucoup de précaution, la violence, parce qu'il y a quand même eu l'assaut sur le Capitole qui n'a pas été un pique-nique, mais tranquille. Mais disons que rien de comparable, évidemment, avec le déploiement de violence qu'il y avait dans les années 30.
Donc, mais bon, il nous faut quand même de nouveaux concepts, sans doute, parce que, comme disait Lefort, il y a un inconnu de l'histoire.
Il y a beaucoup. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est un point, encore une fois, tout à fait commun, mais je sais que vous allez consacrer une émission entre Claude Lefort et Hannah Arendt. C'est l'idée, il n'y a pas de philosophie politique ou de pensée politique qui puisse s'abstraire de l'événement, oui, si vous voulez.
Et Castoriadis le disait aussi, à sa façon, l'invention, l'histoire est pleine d'inventions.
Voilà. Nous sommes pris dans ce milieu de l'histoire, et donc il nous faut réfléchir à la lumière de l'événement. Moi, j'avoue qu'il nous faudrait peut-être un nouveau Claude Lefort pour penser la radicale nouveauté de ce que nous avons sous les yeux et qui me laisse, à titre personnel, très, très perplexe.
Nous réfléchissons ce matin dans le cadre d'une série consacrée à Claude Lefort, à ce qu'il disait du lieu vide du pouvoir en démocratie, étrange formule que je crois nous avons essayé d'expliquer. Alors l'un des enjeux aussi dans la démocratie, c'est lié parce que ça fabrique de l'indétermination, et c'est un autre concept très fort de Lefort, c'est justement le statut des droits. Les droits individuels, dans une démocratie digne de ce nom pour Lefort, sont là, problématiques, parfois conflictuels les uns par rapport aux autres, réinterprétés sans arrêt, et ils produisent, oui, de l'indétermination, mais au lieu de jeter cela aux orties, il faut au contraire réfléchir à cette dynamique politique. Je vous propose d'écouter une archive de Lefort, c'était sur France Culture le 28 octobre 1994, où il affirmait même le caractère profondément subversif de la notion de droit de l'homme. Écoutez.
Dans un régime démocratique, il y a une sphère du droit qui existe, et telle même que les politiques sont soumis à des lois. À la vérité, en notre temps, toutes les sociétés sont peu à peu minées par ce que j'appelais une incertitude. Toutes les sociétés en notre temps connaissent la revendication de droits des individus, de droits d'expression, de droits des femmes. Cette notion de droit est une notion incroyablement subversive. C'est à travers cette notion des droits, droits individuels, droits civils, droits politiques. C'est à travers ces notions que déjà les États d'ancien régime en Europe se sont transformés, et c'est à travers ces notions que sont nées les démocraties modernes.
Justine Lacroix, vous avez beaucoup écrit sur cette notion de droit de l'homme.
Oui.
Vous êtes attachée à cette conception accueillante des revendications constantes à propos de droits qui caractérisent nos démocraties. Et vous pensez comme Lefort qu'il n'y a pas là de ver dans le fruit, qu'il y a au contraire une dynamique subversive importante.
Alors, il y a une dynamique subversive importante, il y a une dimension politique des droits de l'homme, il y a toujours un ver dans le fruit, mais je pense que Lefort l'avait vu. Il l'avait anticipé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Lefort a été quand même Claude Lefort a été un des premiers à réinvestir d'un point de vue théorique cette notion de droit de l'homme à la fin des années 70. Ça peut sembler loin aujourd'hui, mais où elle était tombée assez largement en discrédit. Quand il va investir la question des droits de l'homme, il va pas le faire à la manière des nouveaux philosophes qui apparaissent aussi à la fin des années 70 sur les écrans de télévision et qui portent, ce qu'on appelle une pensée antitotalitaire menée au nom de la résistance à tous les pouvoirs.
Oui.
Au contraire, Lefort ne défend pas une conception morale ou éthique des droits fondamentaux qui serait située en dehors de la politique et qui vise à résister à tous les pouvoirs. Ce qu'il veut montrer, ce sur quoi il veut insister, c'est que l'institution des droits de l'homme est inséparable de l'institution d'un espace public. D'où sa critique fameuse de Karl Marx, où il prend par exemple, bon c'est un des exemples les plus connus, les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui visent la liberté d'association et la liberté d'opinion, et il dit on voit bien que ces droits ne sont pas les droits simplement de l'individu qui défend ses intérêts personnels repliés sur sa sphère privée, mais c'est des droits d'entrer en relation, de se lier à d'autres, d'avoir une parole publique, et donc il montre tout de suite, d'emblée, qu'il y a une dimension, je dirais pas seulement collective, mais vraiment transversale des droits humains. Donc, on me dit, le ver est dans le fruit, c'est-à-dire, vous faites sans doute allusion aux critiques.
Pas à celle de Marx, car je voudrais quand même dire que dans le fameux texte souvent cité sur la question juive, à propos de la question juive, Marx défend dans ce texte, et on ne le sait pas assez, la liberté de la presse. Il note que les bourgeois ont utilisé les droits, ils l'ont anéanti. C'est le seul passage.
Là, vous prêchez une convaincue. Dans le fameux texte sur la question juive, en réalité, l'objectif pratique de Marx, c'est quoi? C'est de répondre à Bruno Bauer dire qu'il faut. Non, mais c'est important.
Ouais.
Pour lui dire que les juifs doivent jouir de l'égalité des droits parce que une religion particulière n'est. Marx a combattu toute sa vie pour l'extension des droits, ça y a aucun doute. Simplement, ce qu'il critiquait, c'était pas les droits en eux-mêmes, c'était de dire qu'au fond, la forme qui est donnée à ces droits est risque de faire prévaloir l'intérêt privé de l'individu propriétaire. Ça changerait en fait que, bien entendu, et il le dit dans le texte de façon très claire, l'émancipation politique est un grand progrès. Et donc, ce que Lefort reproche à Marx, c'est pas du tout d'avoir méprisé les droits. Il avait, d'ailleurs, il s'inspire encore de Marx. Il montre à certains endroits que sa critique de la dimension propriétariste, si je puis dire, des droits est fondée. Mais il n'a pas vu la dimension symbolique. Il n'a pas vu que ces droits étaient porteurs d'un effet d'indétermination qui faisait qu'ils allaient plus tard être revendiqués contre les bourgeois propriétaires qui les avaient proclamés, par des colonisés, par des ouvriers,
par des femmes qui étaient pourtant exclues des déclarations. Donc il y a chez Lefort une
très grande compréhension de Marx.
Une très grande compréhension et à aucun moment il ne sous-estime, bien sûr, la
Non, mais je voulais pas pour les auditeurs, parce que ça,
bien sûr.
Je dis, voilà, critiquer Marx, parfois on simplifie. Et il n'a pas du tout les mêmes mots, Marx, pour le droit de propriété et le droit de sûreté que, par exemple, pour le droit à la liberté de la presse, où il note que les bourgeois au pouvoir l'ont vite anéanti, justement.
Exactement.
Parce que c'était sans doute un des plus subversifs de tous les droits de l'homme. Martin Legros, oui, le risque, c'est que les droits de l'homme fabriquent, à chacun les revendiquant en permanence, une société de monade, c'est aussi une expression de Marx, individualiste, où chacun, sa petite communauté, son petit individu, défend son morceau de droit, quoi, en gros. Lefort n'est pas d'accord avec cette critique, qui, encore une fois, est plus subtile chez Marx que parfois ce qu'on en dit. Et vous pensez qu'il a raison ? Lefort, de défendre les droits de l'homme comme une conflictualité riche et source de liens et pas du tout diviseuse.
Ah, diviseuse, c'est pas sûr, mais ce que dit très justement Justine Lacroix, c'est que pour une fois, Marx était sur le principe, il défendait certes la liberté de la presse, mais la question est de savoir est-ce qu'il avait le principe philosophique qui fondait cette liberté, au-delà du fait de la défendre. Et qu'en faisant du droit, comme les libéraux sur ce point, un droit attaché à l'individu propriétaire et en tant que propriétaire devant disposer d'une série de droits, là-dessus Marx est assez d'accord avec les libéraux, eh bien Lefort dit c'est une erreur dont Marx et les libéraux ne pouvaient peut-être pas connaître puisqu'ils étaient au début de cette histoire, et au bout de cette histoire ou après un ou deux siècles d'historicité des droits de l'homme, on découvre en effet, comme l'a très bien dit Justine Lacroix, que ce ne sont pas des droits qui sont attachés à des individus mais que ce sont des droits de rapport. Le droit de s'exprimer, de parler implique le droit d'entendre.
Et le droit de propriété ?
Eh bien, le droit de propriété implique le droit de vendre sa propriété à un acheteur, par exemple, et créer une société où les biens circulent, où les individus sont libres et ne dépendent pas de l'autorité pour demander l'autorisation de pouvoir faire ce qu'ils entendent de leurs biens. Mais si le propriétaire reste avec sa petite propriété, il ne va pas mobiliser son droit.
Il faut aller jusque-là pour aller discuter avec Marx.
Bien entendu. Mais il y a dans le capitalisme lui-même, le disait Lefort, à la fois un potentiel de domination, mais il y a aussi une émancipation des individus, des sociétés d'encastrement, de l'encastrement dans lequel ils étaient dans les anciens régimes, qui leur interdisait à certains de faire du commerce, de se déplacer, de voyager. Et donc, oui, il y a dans la société, une part de la société libérale, à partie commune avec la société démocratique. Mais ce que je veux ajouter sur la question des droits, donc, les droits ne sont pas des droits liés attachés aux individus, même si c'est comme ça qu'on les formule, ils sont des droits attachés aux relations humaines. Et ce qui est le plus intéressant et qui nous relie à la première question qui était le lieu vide, quel est le rapport entre les droits de l'homme et le lieu vide du pouvoir ? Il y a un rapport très étroit, c'est que pour Lefort, c'est précisément parce que les gouvernants totalitaires, les gouvernants démocratiques ne sont pas comme le roi d'Ancien Régime, garant du droit, possesseur du droit. Le roi y confondait, il était le grand juge. Le grand juge qu'on allait voir, le tiers, qui tranchait au nom de la royauté et du droit, en réalité, qui tranchait les conflits.
Et même, il était législateur.
Il était législateur, il était garant de justice.
C'est lui qui faisait la loi.
De justice, même, selon la formule. Eh bien, avec la démocratie, le lieu vide fait qu'il n'y a plus que la place du grand juge, comme dit Lefort, s'éclipse. Elle ne disparaît pas. Nous sommes tout le temps en train de dire comment il faudrait juger. Mais la place du grand juge disparaît. Et dès lors que la place du grand juge disparaît, entre ces individus qui sont tout le temps dans des relations d'expression, de commerce, d'échange, chacun est incité à définir de sa propre place ce qu'il entend par le droit. Et donc, c'est là où Lefort dit « les droits de l'homme sont subversifs, les droits de l'homme vont au-delà même de l'état de droit, au sens de l'état monarchique, qui était un état de droit avec des garanties de justice pour chacun, etc. » Ils inaugurent une inventivité. On parle aujourd'hui, on a parlé des deux, on a dit les droits de l'homme, et puis Justine Lacroix a dit les droits humains. Pourquoi ? parce que les femmes ont fait valoir que cette formule, moi je suis un peu réticent à oublier l'homme avec un grand H derrière les hommes,
c'est l'homme idée, universel, vous
l'homme universel, l'homme indéterminé, qui n'a pas une définition de lui-même et qui cherche la définition de lui-même à travers la formulation de ses propres droits. Donc moi je suis un peu réticent à l'idée de l'abandonner, mais le fait même, le fort dans l'extrait qu'on a entendu disait les femmes, le combat des femmes atteste de la dimension subversive des droits. Eh bien, on dit aujourd'hui les droits humains, précisément parce qu'on ne veut plus, c'est le produit de cela, un produit heureux ou malheureux, je n'en sais rien, mais c'est le signe tout de même qu'il y a une dimension subversive au sens où nous ne sommes pas en possession des limites du droit. Et donc, nous pouvons l'inventer.
Donc, est-ce que je comprends bien Lefort si je dis ceci, Justine Lacroix, pour lui, par exemple, le droit de propriété a, par les relations induites et les problèmes, produit un droit du travail aussi. Puis le droit du travail a produit un droit anti-discrimination, puis les lois anti-discrimination. Tout le temps, il y a des revendications de droits qui corrigent peut-être certains effets trop massifs des droits antérieurs. Il y a une logique des droits qui recrée du conflit tout le temps. Et finalement, c'est positif. Il n'y a pas à s'inquiéter du discours permanent « je veux mieux faire valoir mon droit, je veux créer de nouveaux droits », etc. Il n'y a pas à s'en inquiéter, Justine Lacroix.
Alors si, je crois qu'il y a lieu à s'en inquiéter et que, en réalité, Lefort s'en est inquiété. Je vais prendre la question du droit de propriété. Quand il analyse dans Droits de l'homme et politique la critique de Marx, qui, on vient de le rappeler, Marx qui ne méprisait pas les droits de l'homme, mais qui reprochait que les droits politiques, les droits du citoyen soient subordonnés aux droits de propriété. Le grief de Marx, vous l'avez dit et répété, c'est le droit de propriété. Lefort est conscient de ce risque.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'en 1791, qu'est-ce qui se passe ? On adopte la loi Le Chapelier, qui cite explicitement la Déclaration des droits de l'homme pour interdire les associations ouvrières. Donc ça, Lefort, c'est un exemple, et Marx revient là-dessus dans Le Capital. Donc, je pense que Lefort a conscience qu'il y a un usage des droits humains qui peut servir, pour parler le langage du temps du 19e siècle, les intérêts de la bourgeoisie capitaliste en ascension. Il a conscience de ces usages, mais il veut insister sur l'indétermination et l'imprévisibilité du langage des droits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une extériorité du droit par rapport au pouvoir, ça veut dire, on disait il y a un instant, dans la monarchie d'Ancien Régime, il y avait une forme d'état de droit, il y a des lois, les parlements avaient des droits et tout ça. Là, il y a une extériorité radicale, ça veut dire que quand vous posez cette affirmation « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », vous créez un instrument qui va pouvoir être approprié justement pour réglementer, comme vous le dites, le droit du travail ou pour réclamer ce que Marx n'a pas vu pour Lefort, enfin peut-être qu'il a tort dans sa critique de Marx, peu importe, mais enfin ce qu'il reproche à Marx, il le dit à un moment de façon très claire, il dit ce n'est pas ce qu'il voit dans les droits de l'homme. Là, il n'a pas tort. C'est ce qu'il ne voit pas. C'est l'imprévisibilité des conséquences.
Et ça pourrait.
Et le fait qu'il y a là un langage qui va être approprié par les dominés.
Oui, et donc, si je comprends bien, bien sûr qu'il faut s'inquiéter au sens où l'inquiétude est consubstantielle à l'indétermination démocratique. Mais enfin, la dynamique des droits peut donner aussi de bonnes choses.
Ah bah oui, alors ça, tout son effort consiste à montrer que les droits se sont imposés comme l'idiome pour nourrir des revendications sociales. Et en fait, il le dit à l'instant, pour bousculer, si vous voulez, les limites de la communauté politique et les élargir, parce que tout l'enjeu du combat des droits, c'est pas tellement de gagner des libertés individuelles, c'est important bien sûr, mais en fait c'est d'élargir les limites de l'inclusion politique, les limites et c'est en ce sens que ce sera repris par des auteurs comme Étienne Balibar ou même Jacques Rancière, qui doivent beaucoup à Lefort avec cette idée d'illimitation démocratique, si vous voulez.
Un poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical. geral se inicia, resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. Alegria é a prova dos nove, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, Pindorama, país do futuro. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, dança, meu boy.
Et vous écoutez une chanson qui évoque la gelée générale, expression du poète brésilien Décio Pignatari, reprise en 68 par le parolier Torquato Neto pour créer cette chanson phare du mouvement musical brésilien qu'on appelle le tropicalisme. La gelée générale, c'était à l'époque le régime militaire brésilien instauré en 1964. Et les masses endormies, la chanson est interprétée par Gilberto Gil en 68, donc peu avant son exil. Et Torquato Neto, lui, se suicidera en 1972. Merci Justine Lacroix, merci Martin Legros.
Merci, c'est bon.
Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms qui parle lui aussi de l'autorité cette semaine. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi obéit-on aux autorités ? L'autorité est peut-être cette forme étrange de pouvoir entre les humains qui tient à la pure relation entre eux. Une relation qui peut être purement personnelle. Je reconnais l'autorité d'une personne, au fond, par son savoir, par son rayonnement supérieur au mien et qui m'oriente vers le bien. Ou bien, au contraire, par une pure place dans une structure hiérarchique. Une place qui, à ce moment-là, peut rentrer en contradiction avec certains régimes politiques, en particulier avec, dans nos démocraties, la question de la liberté et de l'égalité. Dans des systèmes politiques qui reconnaissent des hiérarchies naturelles entre les humains, naturelles, c'est-à-dire fondées dans la nature des choses, à supposer que cela soit possible, alors l'autorité du maître sur l'esclave, de l'homme sur la femme, du parent sur l'enfant, sera fondée dans une théorie absolue qui postule une inégalité de fond entre les êtres humains. Mais comment accepter l'autorité dans un système politique fondé sur la liberté et sur l'égalité, comme c'est le cas dans nos démocraties, en principe au moins, depuis le XVIIIe siècle au moins, et surtout dans la contestation des autorités, dans leurs abus sur lesquels il faudra revenir. Au fond, l'autorité dans un système politique est une délégation d'un pouvoir nécessaire pour la survie, un pouvoir nécessaire et organisé avec le consentement de ceux qui obéissent à des autorités alors mises au pluriel, car on n'obéit pas à l'autorité avec un grand A, mais avec des délégataires d'une autorité fonctionnelle déléguée par les uns aux autres pour la survie de toutes et de tous. C'est pourquoi ce pluriel, les autorités, suppose la légitimité de ceux et de celles qui en sont investis, et on obéit aux autorités dans une démocratie par ce régime d'égalité, également avec des contre-pouvoirs, chaque autorité ayant au-dessus d'elle une autorité finalement qui peut surveiller l'exercice de la sienne. Pourtant, il reste dans cette relation légitime et démocratique aux autorités au pluriel le double extrême de la soumission à l'autorité comme pure fonction hiérarchique possible, avec ses abus toujours possibles d'un côté, et de l'autre côté, le spectre plus heureux de la reconnaissance du rayonnement d'une autorité morale. Du côté de la soumission, plusieurs expériences de psychologie après les désastres du XXe siècle et de la tyrannie de la dictature revenue parmi les humains ont testé la forme pure de ce que l'expérimentateur américain Stanley Milgram a appelé la soumission à l'autorité. On obéirait à l'autorité sans même se demander si ce qu'elle demande est juste, juste par le symbole même de l'autorité, par exemple la blouse blanche. Ainsi, par sa simple blouse blanche, un médecin peut-il donner des ordres injustes ? Nous y obéirions. Les humains acceptent de torturer d'autres humains si une autorité le leur demande, même si c'est visiblement un abus et un crime. Hannah Arendt a beaucoup réfléchi sur la façon dont l'autorité, légitime, nécessaire parmi les humains, peut se renverser en soumission et en dictature. Il est donc certain que nous n'obéissons pas seulement aux autorités en vertu d'un principe légitime, mais en vertu d'une force hiérarchique qui peut mener à la soumission, qu'il faut donc elle-même soumettre à la critique, et il faut toujours obéir aux autorités avec le renfort paradoxal, mais nécessaire, de la loi et de la liberté.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Guillaume Ficheux. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine de Belloache, Aïma Giboire, Anna Felpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.
Comment la vie, exclusivement marine, est-elle sortie de l'eau? Marc Mortelmans vous raconte l'aventure des premiers explorateurs qui passent de l'eau à la terre avant de conquérir le ciel, sans oublier ceux qui sont retournés à l'eau, comme les baleines ou les manchots.
Dans les premiers océans, des molécules trouvent le moyen de s'agréger, puis de se reproduire.
Mécanique du vivant, une collection par Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Au menu de la critique ce midi, c'est poésie. Nous débattrons de deux recueils. 27 fois, La muraille de Chine, Je me suis posé la réponse, dans laquelle la poétesse et dramaturge Mylène Tournier s'entretient avec une intelligence artificielle. Et puis Morceaux choisis et autres morceaux choisis, publication posthume de Christophe Tarkos.
Marie Laborie.
Et puis je reçois l'autrice.